Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sportifs sédentaires, d'appétit, quand on est malade d'ailleurs, et de marcher pendant la journée. La première partie, on va parler un petit peu de sportifs sédentaires. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Tout simplement parce que j'ai trouvé que de plus en plus d'articles sortent là-dessus. Il y a même un bouquin là récemment qui est sorti. Je l'ai pas lu encore. Hein. Malheureusement, je suis tombé sur quelques critiques négatives et positives. Et vous savez, à chaque fois, quand on regarde des critiques, on a toujours tendance à se baser sur les négatives. Ce qui n'est pas une bonne idée, en fait. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, là, la critique négative, c'est qu'il y a trop de références scientifiques, c'est trop scientifique. Donc, ça aura plutôt tendance, justement, moi, à me convaincre plutôt que l'inverse. Mais faut pas oublier qu'on n'est pas tous câblés de la même façon et que certains veulent vraiment du bullet point, quoi. Je sais pas si on dit les choses comme ça, mais tu veux être sec et avoir des abdos, tu fais ça, point, tu vois. Bon, il y a encore des gens qui pensent ça, comme tu veux devenir riche, tu fais ça, tu veux réussir à séduire une nana, tu fais ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment encore des gens qui fonctionnent de cette façon. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens déçus quand ils ont des contenus trop pédagogiques, trop informatifs, trop théoriques. Bref, mais c'était pas le seul commentaire négatif, j'en ai vu un autre et du coup ça m'a un peu freiné, mais je pense que je le prendrai. On me l'a déjà recommandé, je l'avais mis dans ma liste de lecture, mais j'ai pas appuyé sur le bouton commander. Bref. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, l'autrice, je ne sais pas si on dit les choses comme ça, l'auteur, Cathy Bowman, est biomécanicienne et en fait, ils ont tiré une citation, j'imagine, de son contenu sur la nutrition.fr, où elle dit « Il est possible d'être à la fois actif et sédentaire ». Et en fait, moi, la partie qui m'a intéressé, c'est vers le milieu fin d'article, où il y a marqué, peut-être que vous vous dites, je marche beaucoup, je fais du vélo tous les jours. Mais ce que les dernières recherches montrent, c'est qu'il est possible d'être à la fois actif et sédentaire. Si vous faites de l'exercice une heure par jour, 7 jours par semaine, votre temps total de mouvement est de 420 minutes sur un total possible de 10 080 minutes, ce qui représente environ 4%. Le reste du temps, donc les 96% de vos minutes hebdomadaires, ceux qui font de l'exercice et ceux qui n'en font pas, s'assoient sur la même chaise au bureau, utilisent le même canapé à la maison, fixent l'écran de l'ordinateur avec les bras et les coudes figés et enfilent les mêmes chaussures. C'est pourquoi les personnes qui font de l'exercice, les sédentaires que j'appelle les patates de canapé, et celles qui font beaucoup de mouvements répétitifs comme les travailleurs manuels, souffrent tous d'une longue liste de ce que nous appelons les maladies chroniques, comme l'arthrose, maladies cardiovasculaires, troubles du plancher pelvien et plus encore. Notre corps n'a pas besoin de 7 heures d'exercice par semaine, il a besoin de 8 heures de mouvement par jour, soit environ 3000 minutes par semaine, ce qui correspond à la moyenne de ce que les chasseurs-cueilleurs historiques auraient pratiqué. Et pour information, ils ont quand même pris plus de temps pour se reposer que vous, pensez-y. C'est vrai que c'est un sujet très problématique actuellement, parce que j'ai l'impression qu'on peut standardiser, qu'on peut faciliter de plus en plus la nutrition. Alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais là je voyais, vous savez, quand je fais ma revue de presse là pour les articles du podcast, je suis obligé de faire des choix et des fois il y a des articles dont je parle et d'autres dont je parle pas parce que il faut bien que je choisisse, sinon le podcast il durerait trop longtemps. Et là il y avait un article qui parlait, je crois c'est les Australiens, au niveau, il y a une loi au niveau national pour eux, où ils vont baisser la quantité de sel dans tous les plats. préparer, etc. Donc c'est un moyen massif d'agir en fait sur la population. Et ils ont détecté que justement ça allait aider, ça allait éviter beaucoup de morts, plus de 1000, je sais plus combien de morts par an, et de pathologies cardiovasculaires, etc. Pourquoi je parle de nutrition comme ça? Parce que la nutrition, tôt ou tard, peut-être qu'on arrivera à faire des fast-food équilibrés, des choses comme ça. En fait, c'est plus facile de faire bien manger les gens parce que ça ne demande pas d'effort physique de bien manger. C'est-à-dire, ça demande un effort mental. Quand vous décidez vous-même de bien manger, nous, quand on a décidé tous, autant qu'on est, de manger sainement, au début, il y a eu une petite volonté à mettre en place pour réussir à manger sainement. Après, avec le temps, c'est différent, mais au début, il faut un peu de volonté. Mais si l'alimentation saine était hyper attractive, ce qui sera de plus en plus le cas, j'imagine. Saine, il y a sain et sain, mais par exemple, je vous donne un exemple concret. Je fais quand même une différence entre un Pokéball et un McDonald's. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre le podcast, on est en 2023, tout le monde sait ce qu'est un Pokéball. Si vous le prenez en option base carotte avec saumon, avocat, de l'ananas, des graines de courge, plein de légumes, du wakame et compagnie, et que vous prenez pas la sauce soja sucrée, ni salée d'ailleurs, mais vous prenez, je sais pas, moi, une sauce citron ou autre, vous vous retrouvez avec un plat qui est... C'est pas grave, ça, vous sortez pas des clous logiquement avec ça, même si vous prenez un riz noir, voilà. La problématique, c'est les sauces sucrées, c'est toutes ces choses-là là-dedans. Donc c'est pas comparable avec un fast-food qui, lui, c'est que du pain blanc, des graisses, de la friture, des sauces, du sucre rapide, etc. Donc on voit bien qu'on arriverait peut-être un jour à rendre la nourriture très saine, accessible et facile à consommer au quotidien. Par contre, le sport, c'est compliqué. Le sport, il n'y a pas de moyen. En fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui tous, hein, c'est-à-dire moi y compris, on fait ça parce qu'on aime ça, mais on fait aussi ça pour tamponner notre sédentarité et notre excès de confort. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que paye une grande partie des adultes qui ont, enfin voilà, des boomers et tout ça, qui ont voulu de l'extra confort parce que travail oblige, parce que je sais pas, parce qu'en fait pour eux le sport, il y a eu toute une tranche de vie, si vous regardez un petit peu l'histoire, où il y a eu la paysannerie, etc. Enfin, il y a eu tout le travail physique obligatoire au quotidien parce que il fallait bien manger, donc il fallait aller au champ, etc. Puis est arrivé l'ère industrielle, etc., etc., avec le travail de bureau, avec même le travail physique qui s'est mis à être assisté par machine et tout ça. Et il y a eu un laps de temps, donc je dirais après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 90, où l'activité physique, elle était complètement négligée. C'est-à-dire que, à part les passionnés qui allaient un peu courir et tout ça, mais il n'y avait pas de sport, en tout cas chez les hommes, hein, peut-être plus chez les femmes, parce qu'il y avait un souci esthétique, il y avait les cours collectifs sont arrivés un petit peu plus tôt, mais chez les hommes, il n'y avait aucun intérêt à faire du sport, etc. Et ils l'ont payé parce qu'il y a eu, enfin, on le voit aujourd'hui, nos grands-parents, nos grands-oncles, nos grandes-tantes et tout, c'est ceux qui souffrent de diabète de type 2, de cholestérol, d'embonpoint, d'hypertension. Donc, ils ont pris, enfin, pour eux, parler un petit peu avec ces gens-là, la nutrition et le sport, enfin, c'est un peu du phénomène de hasard, en fait, les problèmes de santé pour eux. Ils remettent pas du tout en cause leur mode de vie pour eux. C'est comme ça, ça doit arriver. Ça doit arriver, voilà, c'est ça le mot. Ça doit arriver. Donc, ça arrivera. Alors que bon, aujourd'hui, on sait quand même qu'on peut réduire, les risques de problèmes de santé grâce au sport et à la nutrition. Mais bon, donc, nous, on est dans un monde actuellement où on s'est rendu compte des méfaits de la sédentarité. Qui, d'ailleurs, on dit souvent que la sédentarité est le nouveau tabagisme. Donc, on cherche à la tamponner avec du sport. Mais sauf qu'on se rend bien compte, si on est honnête, qu'une heure de sport par jour, c'est déjà très bien. C'est mieux que 99% des gens. Mais sur 8 heures de travail, c'est pas énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, comment on fait quand on a un boulot et tout? Et je suis dans le même cas que vous, hein. On a tous un travail. Enfin voilà, il y a Je comprends et j'ai les mêmes problématiques dans le sens où j'ai un travail où je suis assis et on verra après une astuce, mais c'est très compliqué à mettre en place. Limite aujourd'hui, les gens qui bougent suffisamment, c'est ceux qui font et du sport et qui ont un travail de type, je sais pas, vendeur, boulanger, etc., qui ont un métier où ils se servent de leur corps, quoi. Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que les sportifs sont ceux qui culpabilisent le moins de s'affaler dans le canapé parce qu'ils ont fait leur séance de sport dans la journée. Donc, le sportif est parfois plus sédentaire que la personne qui ne fait pas une activité comme la muscu ou autre, quoi. Donc, si vous avez du mal à vous mettre... déjà, si vous êtes tout le temps assis et que vous faites une heure de sport par jour, juste sachez-le, c'est pas l'idéal. On peut mieux faire. Voilà. Allez, sujet suivant. Pourquoi perd-on l'appétit quand on est malade? Je pense que tous ceux qui, au moins 80, plus de 90% des gens qui m'écoutent ont chopé la Covid. Moi, je l'ai eu. C'est vrai que on n'a pas forcément faim quand on est malade. J'ai des souvenirs pareils d'avoir eu la grippe il y a 7-8 ans. J'avais pas faim. Et quand on a la gastro, on n'a pas faim. Enfin voilà, vous avez bien remarqué. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, vous, moi, etc., enfin les gens qui font attention un petit peu à leur mode de vie, on s'est presque tous rendu compte d'une chose, c'est qu'on est la fréquence des infections, des maladies, est quand même beaucoup plus espacée qu'avant. Quoi. Les maux de ventre, les rhumes à répétition. Enfin bon, voilà. Mais bon, cet appétit, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on était gosse et qu'on allait par exemple chez les grands-parents ou autres et qu'on était malade, on nous disait « mange, il faut que tu reprennes des forces ». Eh ben, figurez-vous que c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait, ils ont étudié, là, sur le site de Le Cerveau et Psycho, ils parlent d'études, etc., là. Donc, l'université Rockefeller de New York et ses collègues révèlent l'existence d'une sous-population de neurones localisés dans le tronc cérébral des souris, capables de provoquer tous les changements comportementaux que l'on observe lors d'une infection. Et en fait, j'avais noté, en forçant des souris à manger leur quantité habituelle de nourriture, des chercheurs, bah, quand ils sont malades, j'imagine, des chercheurs avaient auparavant constaté que le risque qu'elles décèdent de leur infection est fortement augmenté. D'où cette conclusion contre-intuitive, modifier à la baisse ses habitudes alimentaires favorise la guérison. Et en fait, cela s'explique, comme ils disent, mais bon, vous l'avez déjà entendu sur mon podcast, mais je le redis, manger nous apporte certes de l'énergie, mais cela nous coûte aussi. Notre corps doit en dépenser une quantité importante pendant et après un repas, que ce soit pour la digestion, pour l'absorption des nutriments, par exemple, en ralentissant significativement de nombreuses fonctions vitales, notre organisme peut alors consacrer le maximum d'énergie disponible à lutter plus efficacement contre l'agent pathogène via la réaction immunitaire. Donc en conclusion, ils disent, la réaction immunitaire n'est pas la seule réponse cellulaire à une infection. Une action coordonnée entre le système immunitaire et le cerveau est nécessaire pour déclencher une cascade de réactions chimiques amenant à adopter des comportements favorables à notre guérison, comme moins s'alimenter. Attention toutefois de veiller à manger à votre faim. Jeûner volontairement ne vous fera pas guérir plus vite. Alors là, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Moi, je les écoute. Je pense qu'on est bien foutu, en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes malade, je sais pas, vous avez peu importe la maladie, une maladie, un truc qui passe, quoi, un truc d'hiver ou une grippe ou j'en sais rien, et que vous avez un appétit démesuré, vous avez très faim. C'est quand même que votre corps vous dit, tu manques d'un truc, bouffe. Si à l'inverse, vous n'avez pas faim du tout, c'est limite nauséeux et tout, votre corps vous dit, laisse-moi peinard, je suis en train de bricoler, ne rajoute pas des matériaux, j'ai suffisamment là. La bétonnière tourne à plein régime dans ton organisme pour essayer de reconstruire les murs et tout, laisse tranquille, il n'y a pas besoin. Et en fait, on est quand même bien équipé. Souvent on parle d'instinct, vous savez, que nos instincts, on est de plus en plus détachés de nos instincts. Là où on les retrouve pas mal quand même, c'est quand on est malade, parce qu'on est crevé, on va dormir, et on n'a pas faim, donc on bouffe pas. Donc évitons Surtout, là, je parle parce que je sais très bien que mon podcast est écouté par des gens qui poussent des barres, qui ont parfois peur de perdre de la masse musculaire, et s'ils se chopent une petite infection, ils ont pas envie de perdre leur pec, leurs bras, leurs cuisses, leur cul, etc. Donc, ils vont se dire, bon, ben, quand je suis malade, je mange au moins mes protéines, ou je vais prendre au moins des shakers de protéines. Non. Si vous avez pas faim, ne bouffez pas. Hydratez-vous. Ça, c'est important, surtout en cas de gastro et tout, mais hydratez-vous correctement. Mais si votre appétit n'est pas là, si vous avez la nausée, laissez votre corps se débrouiller parce qu'il a besoin. Toute énergie utilisée pour la digestion ne sera pas disponible pour la guérison, en gros, par votre système immunitaire. À l'inverse, si vous avez très faim, moi, ça m'est arrivé des fois d'être, d'avoir, vous savez, un état grippal un petit peu à la con, sans parler de grippe, mais un petit état, et pourtant un appétit bien ouvert, voire plus ouvert. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir écouter ses instincts. Et là, je parle pas de la faim ou de la fringale dictée par un ennui et le passage devant un distributeur de barres chocolatées. Hein. Je vous parle vraiment de l'appétit élevé, où on a faim, quoi, de la vraie faim. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des neurones, en fait. Alors, tous ceux qui font le jeûne intermittent et tout, ils vont penser que, justement, c'est pour ça que ça les protège. Ben non, parce qu'en fait, en l'absence d'infection, d'affection, c'est pas forcément utile de jeûner, quoi. Enfin bon, d'ailleurs, je vous en parlais, je crois que c'est la semaine dernière. Oui, je crois que c'est dans la newsletter VIP que je vous ai partagé ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé la voir, bah, évidemment, il faut être VIP pour la recevoir. C'est tous les vendredis où je partage mes découvertes de la semaine. Allez la voir parce que je parle de ça. Voilà. Alors, les chercheurs ont montré que vous pouvez tamponner votre position assise quotidienne en allant marcher toutes les 30 minutes, vous marchez 5 minutes. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez la capacité dans votre job de vous lever toutes les 30 minutes? J'en sais rien. Moi, en tout cas, moi, je peux. Parce que j'ai pas de patron derrière moi. C'est moi qui me gère. Les boulots que j'ai eu avant, j'aurais pu aussi. Mais après, je sais pas, par exemple, si vous êtes banquier ou, enfin, quoi que, vous pouvez. Toutes les 30 minutes, vous allez faire une photocopie ou, enfin, voilà, j'en sais rien. Bref. Contrairement à d'autres idées qui testent une ou deux options d'activité, l'étude de Diaz a testé 5 collations, entre guillemets, ils appellent ça des collations, d'exercices différentes. 1 minute de marche après 30 minutes de position assise, 1 minute après 60 minutes, 5 minutes toutes les 30 minutes, 5 minutes toutes les 60 minutes et aucune. Si nous n'avions pas comparé plusieurs options et varié la fréquence et la durée de l'exercice, nous n'aurions été en mesure de fournir aux gens que de meilleures estimations de la routine optimale, explique Monsieur Diaz, donc M. Diaz. Donc en gros, les chercheurs ont constaté que la quantité optimale de mouvement était de 5 minutes de marche toutes les 30 minutes. Cette durée était la seule qui permettait de réduire de manière significative la glycémie et la pression artérielle. En outre, ce régime de marche a eu un effet spectaculaire sur la façon dont les participants réagissaient aux repas copieux, réduisant les pics de glycémie de 58% par rapport à la position assise toute la journée. Faire une pause promenade toutes les 30 minutes pendant une minute a également eu des effets bénéfiques modestes sur la glycémie tout au long de la journée, tandis que marcher toutes les 60 minutes, soit pendant une minute, soit pendant 5 minutes, n'a eu aucun effet bénéfique. Donc, ceux qui vous disent c'est toutes les heures, vous essayez de faire quelque chose, ça marche pas, c'est toutes les 30 minutes, 5 minutes. Donc, en gros, toutes les 30 minutes, vous faites 5 minutes. Alors, là, je sais qu'il y a des patrons qui m'écoutent, et qui se disent, mais moi, si je recommande ça à mes employés, c'est-à-dire que toutes les heures, je perds... Enfin, toutes les 30 minutes, je leur offre 5 minutes de pause, quoi. Ben pas forcément, parce qu'en fait, au lieu d'attendre 30 minutes, il peut y avoir des bonnes habitudes de prise. Moi, j'en parle souvent, c'est que déjà, tous les coups de fil, l'intégralité des coups de téléphone se font debout. Il faut ritualiser les trucs, c'est-à-dire que... Ou même les réunions en Zoom ou en Skype visio et tout, la webcam, vous la mettez en hauteur, le PC en hauteur, ou vous inclinez votre écran, ça se fait debout, en marchant, enfin voilà quoi. Et donc, bon après, il y a toujours des gens qui diront on peut pas, qui vont ajouter du mais partout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de faire ce genre de choses? Si vous voulez une petite application qui marche bien, Elle s'appelle Befocused, B-E plus loin F-O-C-U-S-E-D. Je crois qu'elle est disponible sur Android et iOS, mais en tout cas, c'est sûr, elle y est sur Mac. Vous pouvez créer des périodes de tâches actives, par exemple 30 minutes, et des tâches de repos, par exemple 5 minutes, et vous lancez en récurrence automatique, comme ça, dès que quand vous travaillez, ça, toutes les 30 minutes, ça sonne, pendant 5 minutes, vous faites autre chose, etc. Enfin, autre chose. Vous pouvez continuer à bosser en étant debout. Hein. Vous pouvez, si vous êtes en train de faire vos mails, vous pouvez les continuer sur le téléphone. L'avantage d'avoir tous les systèmes connectés maintenant, c'est qu'on peut faire ça, quoi. Encore une fois, ce sont des recommandations beaucoup plus faciles à suivre quand vous avez si vous êtes étudiant en classe par exemple et que vous avez 2 heures de cours non-stop, si tout le monde au bout de 30 minutes, alors ça serait au prof de le dire dans l'amphi, hop ça sonne, tout le monde se lève, on reste debout pendant 5 minutes. Et si je serais prof, je serais casse-couille. Mais qu'est-ce que je serais casse-couille? Bref, parce que ça, tout le monde aurait envie de me tuer. Moi je dirais allez, on se lève, c'est parti. Bref. Ce week-end, je vous ai proposé une solution des coupe-fins gratuits et naturels. En fait, je regardais les coupe-fins qui se vendent sur Internet, parce que quand je prépare un contenu, j'aime bien me mettre dans la peau de quelqu'un qui cherche à se couper la faim. Et je me dis, tiens, s'il cherche à se couper la faim, il va aller sur Internet, il va chercher un coupe-faim naturel. Et les vendeurs de compléments alimentaires ont tendance à se glisser dans les requêtes des recherches des personnes qui ont envie de se couper la faim. Et je regardais, en fait, les prix des coupe-faim. Alors, il y en a 17, il y en a 49. Là, j'en ai à 50, un autre à 25. Donc, c'est quand même pas mal d'argent pour des plantes et dans des quantités... je vais vous le dire honnêtement, ça fonctionne 20 fois moins que si vous savez quoi manger sous forme alimentaire. C'est-à-dire que l'alimentation aura toujours plus de chances de marcher que ces trucs-là, quoi. Sinon, un bon coupe-faim, vous tombez malade et comme on a vu tout à l'heure, vous coupez la faim. Donc honnêtement, au lieu de mettre 50€ dans un coupe-faim, vous aurez autant d'efficacité à boire un grand verre d'eau. Je vous le dis, en plus le grand verre d'eau, c'est immédiat. Si vous buvez, mais vraiment un grand verre d'eau, pas un petit verre d'eau comme ça juste pour vous hydrater. En fait, c'est le verre d'eau qui va au-delà de votre soif. C'est-à-dire que vous buvez pour vous calmer votre soif et vous rebuvez derrière. Là, c'est le vrai coupe-faim. Sauf que les gens, souvent, ils s'arrêtent quand ils ont plus soif. Ils disent, stop, c'est bon. Sauf que le moment coupe-faim de l'eau arrive quand vous avez plus soif. C'est-à-dire que si un verre vous suffit, ben, il faut en prendre un deuxième pour avoir l'effet coupe-faim, quoi, en gros. Petite astuce cadeau que je vous donne. Bon, moi, comme je vous disais, je vous propose d'économiser un peu de pognon en évitant de mettre 50 balles, surtout en ce moment, ou 50€, ben, on préfère le mettre dans la bouffe, parce que vu le prix que ça a pris, d'ailleurs, je sais pas si vous achetez encore du saumon ou du bœuf ou des choses comme ça, mais ça devient quand même un peu inaccessible, même si j'ai vu que le saumon avait un peu baissé, là, il y a eu une période où il était vraiment monté très très haut. Enfin bon, bref. Donc vous allez savoir là-dedans pourquoi vous devrez prendre au sérieux votre appétit, des méthodes pour manger de manière imaginaire, le jeûne intermittent et l'appétit, au niveau de l'entraînement, les séries, les charges, les répétitions, comment s'entraîner pour se couper la faim, moins manger avec une façon de penser de quelques secondes, donc ouais, ça c'est une méthode que j'ai vue, en fait vous pouvez moins manger avec une façon de penser, en fait, c'est un exercice mental, hein, c'est pas une pensée magique, hein, c'est un exercice mental à faire. Les exercices du matin et du soir, donc est-ce que si vous vous entraînez le matin ou le soir, quels sont les impacts sur l'appétit? Les femmes, l'appétit durant les règles et après un entraînement intense. Faut-il boire en mangeant? Comment réduire les hormones de la faim? Et un exercice de 5 minutes à faire au quotidien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans les notes de l'émission. Vous avez le lien pour accéder au cours en vidéo, plus au PDF, plus à toutes les références scientifiques et les visuels. Autant vous dire qu'il y a plus de 11 références pour ce cours, que vous avez en lien en plus d'ailleurs, que vous pourrez approfondir en plus du cours si un des sujets vous intéresse, notamment par exemple pour les femmes, les règles, l'appétit, tout ça. Donc voilà, allez voir ça, ça se trouve dans les notes de cette émission, et en attendant je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon entraînement, restez en forme, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement, donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.